Donc, je m'appelle Hubal, je suis un alcoolique. Aujourd'hui, je suis content de le savoir parce que ça m'a permis de connaître un mode de vie qui s'avère être de mieux en mieux de jour en jour. Et merci à tout le monde d'être là. On a besoin de vous autres. Puis, comme je le dis à tout le monde, moi, si vous n'aimez pas ça, parlez-en pas. Mais si vous aimez ça, ramenez-en un autre. Il y a de la place beaucoup sur Zoom. Puis on va avoir le plus de monde possible, le plus renseigné possible. Si vous voulez bien, on va commencer le meeting avec un moment de silence. Pour avoir une pensée pour les personnes qui voudraient être sites et qui ne peuvent pas asseoir. Puis aussi une pensée pour les personnes qui devraient être sites et qui ne veulent pas l'être. Merci tout le monde. Je vais recommencer avec une petite lecture que j'ai vue cette semaine. On a demandé à Dalai Lama, c'est un des grands spirituels de ce monde-là, qu'est-ce qui vous surprend le plus dans l'humanité? Dalai Lama, il a répondu les hommes. Pourquoi? Parce qu'ils perdent leur santé pour accumuler de l'argent, puis ensuite, ils perdent de l'argent pour retrouver leur santé. Et ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils pensent anxieusement au futur. Ils oublient le présent de telle sorte qu'ils finissent par non vivre ni le présent ni le futur. Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir, puis ils meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. J'ai trouvé ça très bon. On va commencer avec l'avant-propos du gros livre à page 13 en chiffre romain. Souvent, je vais vous donner des pages, mais peut-être avoir de la misère à me suivre. Fait que ce que vous pouvez faire, c'est avoir un papier et un crayon, juste prendre une note si les choses vous intéressent, parce qu'on ne peut pas tout le temps attendre pour tout le monde. Si on a au-dessus de 100 personnes, ça va être difficile. Bon, vous voulez le premier avant-propos, le premier paragraphe de l'avant-propos de la première édition, ils disent « Nous, les alcooliques anonymes, sommes au-delà d'une centaine d'hommes et de femmes qui nous sommes remis d'un état physique et mental apparemment désespéré. » C'est de ça qu'on va se remettre, d'un état physique et mental désespéré. Pourquoi que c'est désespéré? Parce que la science ne pouvait pas rien faire pour nous autres. Le but principal de ce livre, c'est de montrer à d'autres alcooliques comment exactement nous nous sommes rétablis. Les 100 premiers membres sont mis d'accord et ont écrit un livre, puis sont obstinés, ils ont dit non, c'est pas de même, disons, ça marchait les autres. Ils ont fini par venir un commun accord pour écrire ce livre-là pour que n'importe qui veut se sortir de son obsession peuvent s'en sortir en lisant. Moi, je dis tout le temps, c'est les 100 premières pages plus l'opinion du médecin qui va. Après ça, c'est toute la 12e étape. Mais comme résultat des 11 premières étapes, on va avoir ce réveil spirituel-là. Après ça, on va aller de nos autres. Ils nous disent qu'on espérons qu'ils trouveront ces pages assez convaincantes pour aucune autre preuve de notre établissement ne soit nécessaire. Puis quand vous allez faire votre étude de gros livre, si vous restez jusqu'à la fin, bien moi, je suis persuadé que vous allez vous apercevoir que vous n'aurez pas besoin d'aucune autre aide pour avoir ce mode de vie-là. Ce compte rendu, OK. Nombreux sont ceux qui ne saisissent pas que l'alcoolique est une personne très malade. On parle d'alcoolique, d'alcoolisme, mais si votre obsession, votre plus grande obsession, ce n'est pas l'alcool, mettez votre plus grande obsession. Ça peut être le gambling, ça peut être le sexe, ça peut être overeater, ça peut être un paquet d'autres affaires. Quand je vous mentionne le mot alcool ou alcooliste, remplacez-les par votre obsession primaire. Peut-être c'est un acheteur compulsif. Il y a au-dessus de 200 différentes... de 12 étapes dans le monde. Fait qu'il n'y a pas juste les alcooliques, mais notre mode de vie marche pour tout le monde. Ils nous disent par ailleurs, nous sommes certains que notre mode de vie peut profiter à tous. Ça a été créé pour AA, c'est bon pour n'importe quelle obsession qu'on peut avoir. Je vais vous lire une autre page, la troisième page, la semaine passée, je n'ai pas lu. Ils nous parlent d'une façon d'arrêter de boire. Il y a juste une page, je vais vous lire ça. Il y a deux styles de buveurs. Il y a le gros buveur puis l'alcoolique. Le gros buveur, c'est un buveur qui boit pour s'évader, puis il peut arrêter ou boire modérément s'il y a une bonne raison de le faire. Par contre, l'alcoolique, celui qui ne peut pas arrêter par lui-même malgré son désir d'arrêter ou de la nécessité d'arrêter. Il y a un vieux dicton qui dit « un gros buveur arrêtera s'il le voulait, puis un alcoolique arrêterait s'il le pouvait ». Là, il nous parle, il y a trois façons d'arrêter. La première façon qu'il nous démontre, c'est la mort. Ça marche à tout coup. La deuxième façon, c'est d'être enfermé, soit d'une prison ou de la psychiatrie. Ça marche à des périodes, puis des fois qu'ils ont réussi à s'échapper ou réussi à trouver de l'alcool malgré ça. La troisième partie, c'est le rétablissement. Le rétablissement, c'est les 12 étapes avec un réveil spirituel. Puis ça marche aussi longtemps qu'on pratique ces principes spirituels-là. C'est pas de faire les étapes une fois, puis après ça, on a fini, on se lave les mains, puis on dit, bien, c'est à votre tour, c'est pas de même, ça marche. Bill, on va le dire dans l'histoire de Bill, plus tard, Bill il a dit que mon ami avait insisté, c'était à la page 17, on va le lire plus tard, on avait insisté sur l'absolue nécessité de mettre les principes qu'il m'avait enseignés en pratique dans tous les domaines de ma vie. Il était particulièrement important que je m'occupe des autres de la même façon que mon ami l'a fait pour moi. Donc, c'est important qu'on fasse la 12e étape, qu'on apprenne ça, ce gros livre-là, qu'on le comprenne assez pour pouvoir l'expliquer à d'autres. On en revient encore des façons d'arrêter de boire. On trouve la spiritualité, le réveil spirituel, le rétablissement en marche tant qu'on le pratique. Il est évident que le réveil spirituel, c'est le meilleur choix pour arrêter de boire. Malheureusement, la plupart des alcooliques vont continuer de boire jusqu'à la mort. Puis c'est incroyable de croire ça, de voir ça. Les alcooliques chroniques qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas s'en sortir puis qui ne veulent pas joindre notre programme. Puis encore pire, ils viennent dans nos salles de réunion, puis on ne lui parle pas d'étape, on lui parle de petit gars qui est un autre, de petite fille qui est un autre. Puis on ne parle pas de rétablissement. Un très distingué psychiatre américain, William James, dans son livre « Variété d'expériences religieuses », nous explique une multitude de façons pour découvrir Dieu. Il n'y a pas juste une façon, il y a bien des façons, il n'y a pas de mauvaise façon. La seule mauvaise façon, c'est de ne pas chercher. À travers les âges, il y a eu plusieurs rapports de personnes qui ont connu un changement psychique ou un changement de personnalité, c'est-à-dire un changement dans leur façon de penser ou d'agir. Un changement qui a permis de résoudre leurs problèmes. Voilà page 31 du gros livre. Je vais vous lire juste ce qu'ils nous disent là-dessus. Dans le gros livre, c'est quoi ce réveil spirituel-là? Il nous dit de temps à autre, c'est le Dr. Young qui parlait à Roland Hazard, de temps à autre, les alcooliques n'ont parfois vécu ce qu'on appelle une expérience spirituelle vitale. Je considère ces événements comme des phénomènes. Phénomène, c'est quoi qu'on peut pas, c'est comme un miracle, c'est quoi qu'on ne peut pas réellement comprendre? On pourrait les assimiler à de grands transferts et réaménagements d'ordre émotionnel. L'émotion, c'est dans notre tête. Il y a un réaménagement dans notre façon de penser qui va changer là-dedans. Les idées, les émotions, les attitudes qui dictaient jadis ces hommes, leur conduite, sont soudainement mises de côté et ils deviennent dominés par un ensemble de conceptions, de principes entièrement nouveaux. C'est ça le réveil spirituel, c'est ça qu'ils nous promettent, c'est ça qu'on va avoir et qu'on va continuer d'avoir si on se maintient dans le programme de rétablissement, dans le programme spirituel. Ils nous disent, à travers les personnalités, le changement de leur façon de penser, d'agir. Okay. L'Armée du salut, avec leur programme chrétien, aide l'alcoolique à trouver une vie sobre depuis 1865. Mais moi, j'étais allé dans un meeting de l'Armée du salut, puis ils nous conseillent d'aller dans un meeting dehors, même là. Mais probablement la plus efficace et la plus simple, la méthode la plus précise qui a fait ses preuves, c'est la solution spirituelle des 12 étapes du programme d'alcoolique anonyme. Ce programme est très efficace pour les alcooliques qui démontrent un profond désir de tout faire pour se rétablir. Ce programme est tellement décrit dans notre livre de base, les alcooliques anonymes, que les membres de cette fraternité appellent le gros livre. Pour ceux qui veulent vraiment se rétablir, la première étape est de comprendre le problème qui est l'alcoolisme. Voilà donc la première étape. Nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool et qu'on a perdu la maîtrise de notre vie. Cette étape contient deux idées. Dans l'opinion du médecin, nous apprenons que l'alcoolique est impuissant devant l'alcool à cause d'une allergie à l'alcool qui se manifeste par une soif démesurée. Pour plus d'alcool et qui est enclenché dès que l'alcoolique prend un verre. Alors, dès que l'alcoolique commence à boire, il boit trop, mais il lui semble qu'il n'en a jamais assez. Très souvent, ces excès de boissons amènent l'alcoolique à vouloir cesser de boire. Il décide donc d'arrêter pour de bon. Si la progression de la maladie de l'alcooliste n'est pas trop avancée, il peut être capable de ne pas prendre un autre verre. Malheureusement, celui qui est le plus avancé dans la progression a perdu le pouvoir de ne plus boire. Après certaines périodes de temps, jours, semaines, mois, il ressent ce besoin d'évasion et de confort que procure ces quelques verres. Malgré toute la souffrance, la dégradation, l'humiliation et la perte de plusieurs personnes et choses de grande importance, il ne peut pas contrôler sa décision de ne plus prendre un verre. Il manque de pouvoir et de contrôle de soi, les choses qui sont nécessaires pour résister au premier verre. La science médicale a prouvé que l'opinion du médecin est exacte. Elle a pu déterminer que l'allergie physique de l'alcoolique est un résultat d'un mal fonctionnement du foie ou du pancréas. Ses organes vitaux ne produisent pas les enzymes en quantité ou en qualité suffisante, ce qui est nécessaire pour compléter la décomposition chimique de l'éthanol qui est l'alcool à travers un corps d'alcoolique. Bon, souvenez, on va commencer avec l'opinion du médecin. L'opinion du médecin qui est à la page 26 en chiffre romain qui est XXV1. Le docteur Silkworth, qui a écrit ce page-là, il est né au monde en 1873 et bien mort en 1951. L'opinion du médecin. Nous, les alcooliques anonymes, croyons que l'opinion d'un médecin sur le programme de rétablissement décrit dans le livre pourrait intéresser nos lecteurs. Si un témoignage convaincant, c'est bien celui apporté par les médecins qui ont pu se rendre compte de la souffrance de nos membres et qui ont été témoins de leur retour à la santé. Voici la lettre écrite par un médecin célèbre, directeur médical d'un hôpital réputé du pays, spécialiste dans le traitement de l'accoutumance à l'alcool et à la drogue. Le docteur Silkworth était reconnu comme un des plus grands psychiatres aux États-Unis, même dans le monde, mais surtout aux États-Unis. Il travaillait à l'hôpital Town depuis 1930, qui a commencé là. À qui de droit, le docteur nous dit, je suis spécialisé dans le traitement de l'alcoolisme depuis plusieurs années. À la fin de 1934, j'ai traité un patient qui, bien qu'il était un homme d'affaires compétent et capable de gagner beaucoup d'argent, était alcoolique à un degré que j'en avais venu à juger désespéré. On parle de Bill Wilson à cette stage-là. Bill Wilson, il a fait 4 retours à l'hôpital. La quatrième fois, c'est lui qui a eu son réveil spirituel. Il y a eu 3 fois en 1933. Une fois en 1933, puis 3 fois en 1934. Au cours de son troisième traitement de 1934, cet homme avait acquis certaines idées au sujet des moyens possibles de se rétablir. Dans le cadre de son rétablissement, il a commencé à exposer ses idées à d'autres alcooliques, insistant auprès d'eux pour qu'ils agissent de même envers d'autres. Bill avait découvert ça, puis déjà, il allait essayer d'entraîner d'autres alcooliques à suivre ses pensées. De là a pris naissance une association formée de ces hommes et de leurs familles qui s'est développée rapidement. Cet homme, Bill Wilson, et plus d'une centaine d'autres semblent s'être rétablis. Personnellement, je connais de nombreux cas où d'autres méthodes avaient été totalement infructueuses. Le docteur qui nous parle de ça. Ces faits semblent avoir une extrême importance sur le plan médical à cause des extraordinaires possibilités de croissance rapide, inhérente à ce groupe, c'est-à-dire qui appartient à ce groupe-là. Il se pourrait que nous soyons à l'aube d'une ère nouvelle dans les annales de l'alcoolisme. Puis en fait, il était à l'aube parce qu'aujourd'hui, on voit la progression de notre méthode, de notre mode de vie, des 12 étapes à travers du monde. Il est fort possible que ces hommes puissent apporter un remède à des milliers d'autres dans les mêmes conditions. Vous pouvez absolument vous fier à ce que ces gens racontent au sujet d'eux-mêmes. Cette phrase-là, moi, j'aime bien ça parce que le docteur Silkworth, il dit aux gens, ces alcooliques-là, là, les moins bons du monde peut-être, ces alcooliques-là, vous pouvez lui faire confiance. Vous pouvez lui parler, puis ce qu'ils vous disent, c'est la vérité. N'ayez pas peur de lui parler puis d'écouter ce qu'ils vont vous dire. Un docteur, un psychologue qui va nous dire que nous autres, les alcooliques, on a l'affaire. Le médecin qui, à notre demande, a remis cette lettre a eu la bonté de préciser davantage son point de vue dans un autre texte qui s'est reproduit plus loin. Il confirme ce que nous qui avons duré la torture de l'alcooliste devons croire, que l'alcoolique a un physique aussi anormal que son esprit. Le docteur confirme ça pour nous autres, les alcooliques, que non seulement on a un problème avec notre physique, mais on a un problème avec notre esprit. Il y a quelque chose qui ne marche pas correct dans notre tête. On le comprend. Okay? Il ne suffisait pas de nous entendre dire que nous ne pouvons pas maîtriser notre consommation d'alcool simplement parce qu'on était mal adapté à la vie ou qu'on était coupé de la réalité ou qu'on était des malades mentaux. C'est pas parce que j'ai perdu ma femme, c'est pas parce que j'ai perdu ma job, c'est pas parce que j'ai fait un accident, c'est pas pour ça que j'ai retourné boire. La seule raison que je me suis saoulé, c'est parce que j'étais allergique à l'alcool. C'est pas parce que j'étais mal élevé, ça n'a pas de rapport. C'est une maladie que j'ai eue. Ces choses se vérifient-ils jusqu'à un certain point? En fait, totalement pour certains d'entre nous. Nous avons la conviction que notre corps aussi était affecté. Selon nous, toute description de l'alcoolique qui néglige cet aspect physique de la maladie est incomplète. Il nous dit que son aspect physique, c'est que sitôt qu'on boit, on a l'allergie kick-in, puis on se saoule. Le docteur, il nous dit, mais on a conviction que notre corps aussi est affecté. Il n'y a pas juste notre tête, il y a notre corps qui est affecté à cause de l'obsession, mais de l'allergie. Et puis notre tête est affectée à cause de l'obsession qu'elle nous apporte. La théorie du médecin selon laquelle nous sommes allergiques à l'alcool présente un intérêt pour nous. En tant que profane en matière de médecine, ça veut dire que je ne connais rien dans médecine, moi. Mais notre opinion sur cette théorie est bien sûr peu valable. Mais comme ex-buveur, nous pouvons dire qu'elle est une explication sensée. Elle répond à plusieurs questions qui autrement resteraient sans réponse. Moi, quand j'arrivais à Alcoolique Anonyme, je vais pas comprendre pourquoi je buvais de même, parce que j'avais pas de raison, j'avais un temps d'affaires, j'allais bien, toute ma vie semblait bien aller, puis j'étais pas capable d'arrêter de boire, puis quand je commençais à boire, je pouvais pas arrêter. Puis c'est pour ça que la théorie du médecin sur laquelle on est allergique à l'alcool, c'est quoi une allergie? C'est une réaction anormale de ce qu'on ingurgite. Notre réaction anormale pour l'alcool, mais je prends une quantité illimitée. Je ne peux plus arrêter quand je commence. C'est ça qui est mon allergie. On est à page 28, en chiffre romain. Même si la solution que nous préconisons est autant spirituelle qu'altruite, ça veut dire qu'elle a un intérêt pour nous, nous conseillons à l'alcoolique atteint de forts tremblements ou dont l'esprit est très embrouillé de se faire hospitaliser. Et puis encore là, aujourd'hui, si on a quelqu'un qui veut rentrer dans notre vie, veut qu'on les aide, puis ils prennent de l'alcool, beaucoup d'alcool à tous les jours, mais pour les conseiller qu'à le passer par l'hôpital, ça fait désintoxiquer avant, parce qu'ils peuvent nous mourir dans les mains. C'est aussi fort que ça. La plupart du temps, il importe que le malade recouvre totalement l'esprit. Il y aura d'ailleurs une meilleure chance de comprendre et d'accepter ce qu'on a à lui offrir. En plus de ça, il peut en mourir d'une crise, d'une défaillance cardiaque. Ainsi s'exprime le médecin. Le sujet traité dans ce livre me semble d'une importance capitale pour les personnes atteintes d'alcoolisme. Le docteur, le spécialiste, nous dit que dans ce livre-là, il y a de quoi pour nous autres qui est très important. Il nous dit, j'affirme cela après plusieurs années d'expérience comme directeur médical de l'un des plus anciens hôpitaux traitant de dépendance à l'alcool et à la drogue dans ce pays. Tout ce qu'il a appris, il trouve que c'est loin d'être comparable à ce que c'est qu'on peut lui apporter. Par conséquent, c'est avec une grande satisfaction que j'ai accepté la demande d'écrire quelques mots sur un sujet traité dans ces pages avec une telle maîtrise du détail. Le docteur n'en vient pas. Comment est-ce que Bill et les 100 premiers membres ont détaillé ça, notre maladie, ils ont détaillé leur établissement. Le docteur, il disait, c'est un honneur pour moi d'aller écrire là-dedans. Les autres, ils ont décrit ça tellement bien. Que pour moi, c'est un honneur d'aller mettre mon nom là pour que ça peut aider quelqu'un. Les médecins ont constaté depuis longtemps qu'une certaine forme de psychologie morale était extrêmement importante pour les alcooliques. Mais la mise en pratique de cette méthode présente des difficultés qui dépassent notre entendement. Les médecins, ils savaient que ça prendrait plus que juste le point physique. Ils savent que ça prend un réveil spirituel, ça prend quelque chose qui va changer notre façon de penser. Mais le docteur lui dit, on n'est pas qualifié pour faire ça. On sait que ça prend ça, mais on ne sait pas comment le donner. Malgré nos normes ultramodernes d'évaluation, notre approche scientifique devant tous les problèmes, peut-être sommes-nous quelque peu démunis pour tirer parti des forces du bien qui existent en dehors de nos connaissances théoriques. Le docteur, hein, il avoue humblement, tout ce qu'on sait, que la théorie qu'on sait, il y a de quoi de plus fort que ça que nous autres, on ne peut pas vous donner. Il y a plusieurs années, un des plus importants participants de la rédaction de ce livre, on parle toujours de Bill Wilson, s'est trouvé soigné dans notre hôpital et pendant son hospitalisation, il a acquis certaines idées qu'il a immédiatement mises en pratique. Et quand Bill, son réveil spirituel, son lit d'hôpital, avec son parrain Amy, il parlait de ce qui se passait. Plus tard, Bill a demandé la permission de raconter son histoire à d'autres patients hospitalisés et malgré notre inquiétude, nous avons accepté. Bill a demandé au docteur d'aller parler aux patients dans l'aide psychiatrique, des patients qui étaient des alcooliques. Puis le docteur, ça ne s'est jamais fait. C'était un gars de la rue, c'était pas un docteur à rien, Bill. Puis ils ont accepté parce qu'ils ont vu le développement qu'il faisait, puis l'aide qu'il faisait. Ils ont accepté qu'il allait parler aux alcooliques chroniques dans l'aide psychiatrique. Puis le docteur, il nous dit, l'évolution des cas que nous avons suivis était des plus intéressantes. En fait, plusieurs sont étonnants. Ils ne pouvaient pas s'en revenir de voir que ce gars-là, qui n'a aucun background médical, pouvait parler des alcooliques et les aider à se rétablir. C'est très étonnant. Puis il nous dit, la générosité de ces hommes que nous sommes venus à connaître, l'abstinence totale d'intérêt pécuniaire, qui ne cherchent pas une scène pour faire ça, et leur esprit de communauté sont en effet une source d'inspiration pour celui qui œuvre depuis longtemps et péniblement dans ce monde de l'alcoolisme. Ils nous disent que ces gars-là, ils croient en eux-mêmes et encore plus à une force avec un F majuscule, une force capable de les ramener à la vie normale, des alcooliques chroniques, autrement voués à une mort certaine. Avant 1935, les alcooliques chroniques mouraient d'alcoolisme. Aujourd'hui, on peut sauver tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui veut se faire sauver. C'est pour ça qu'on essaie de faire des études de gros livres, des études d'étape, pour essayer de ramener le monde à plus de monde possible qui vont pouvoir s'en sortir pour aller le dire à un autre après ça, qu'il y a une façon de vivre sans consommer. Pour un alcoolique. Certes, un alcoolique doit être libéré de son besoin physique d'alcool. Ça requiert souvent un traitement à l'hôpital avant que des mesures d'ordre psychologique puissent être pleinement profitables. On parlait tout à l'heure, c'est un cas, si vous avez un nouveau, vous rencontrez un nouveau, il boit tous les jours, bien mieux de passer par l'hôpital, se faire désintoxiquer avant d'y parler de rétablissement. Nous croyons, et nous l'avons dit il y a quelques années, que les effets d'alcool sur les alcooliques chroniques sont une manifestation de type allergique. Le docteur il va nous décrire c'est quoi l'allergie. C'est le phénomène. Un phénomène, c'est quelque chose de grave, quelque chose de comme un miracle, un phénomène. D'un besoin maladif d'alcool qui se limite à cette catégorie de personnes. Il se limite juste aux alcooliques chroniques, ce besoin maladif d'alcool-là. Ce produit pas chez des buveurs modérés. Les 90% de la population peut prendre un verre ou deux, s'en aller chez eux, puis tout est correct. Mais le 10 à 15% d'alcooliques, si on commence, on ne peut plus arrêter. Les victimes de cette réaction allergique, d'allergie qu'on a, peuvent jamais prendre d'alcool sous quelque forme que ce soit en toute tranquillité. Sous quelque forme que ce soit, ça veut dire que je peux pas me rincer la bouche avec du Lensbourg qui a de l'alcool dedans. Je peux pas prendre du NyQuil le soir quand je me couche s'il y a de l'alcool dedans. Je peux pas manger du gâteau dans le temps des fêtes qui arrose avec du vin ou avec des boissons fortes. Je peux pas prendre cette chance-là parce que peut-être, ou aller dans un restaurant puis avoir de la sauce blanche qui est faite avec du vin. Puis là, le monde dit, ben, pourquoi? Parce que le vin, c'est tout brûlé dedans. Ben, j'ai dit, si c'est tout brûlé, pourquoi qu'ils en mettent? Fait que s'ils en mettent dedans, on est bien mieux de ne pas prendre de chance. Okay? En toute tranquillité, ça veut dire que je peux pas savoir ce qui va se passer. Si moi, je me rince la bouche, j'avale une gorgée qui a d'alcool là-dedans, puis mon allergie se développe, moi, tout fait dans mon possible pour aller trouver de quoi boire à quelque part, je vais me saouler. C'est pour ça qu'ils disent en toute tranquillité, c'est que je ne peux pas prendre de chance. Je ne peux pas être sûr exactement ce qui va se passer. La seule façon, je ne touche pas à ça. Une fois qu'ils ont contracté l'habitude de boire et découvrent qu'ils ne peuvent plus s'en défaire, une fois qu'ils ont perdu confiance en eux-mêmes et en toute valeur humaine, leurs problèmes s'accumulent et deviennent étonnamment difficiles à régler. Quand les alcooliques, plus qu'on boit, une fois qu'on a perdu la confiance en eux-mêmes, on se dit qu'il n'y a plus de raison, il n'y a rien que la boisson qui fait de chance. Hein? Les problèmes s'accumulent. On en connaît tous, des alcooliques. En tout cas, moi, j'en connais, puis certains que plusieurs de nous en connaissent. Ils continuent de se saouler, puis ils ne trouvent pas de solution, puis ils ne veulent pas l'avoir. Les problèmes deviennent de plus en plus graves. Puis là, ils nous disent une approche émotive superficielle suffit rarement. C'est quoi une approche émotive superficielle? Mais c'est faire 90 meetings dans 90 jours, assis-toi en avant, puis écoute, puis toutes des théories qui ne sont pas écrites dans notre littérature. Ce qui est écrit dans la littérature, c'est le message susceptible d'intéresser et de retenir l'attention des alcooliques doit être intense et puissant. Ce qu'on fait à soir, là, c'est intense et puissant. Ça. Si on peut asseoir un alcoolique avec nous autres, un alcoolique chronique, puis le faire comprendre ça, bien, il y a des chances de s'en sortir. Plus que de les emmener dans les meetings. Mais les meetings, j'ai rien contre les meetings. Mais le trois quarts des meetings, on ne parle pas de rétablissement. On parle de ce qui s'est passé aujourd'hui. On parle que le chien, il y a un petit chien, puis il y en a qui est mort, puis on parle que fait accrocher mon char dans le centre d'achat. C'est toutes des bonnes choses, mais ce n'est pas des meetings qu'on. Ça, j'ai un parrain, une marraine ou un guide spirituel pour en parler. Dans les salles de meeting, je dois parler de rétablissement. Dans presque tous les cas, leurs idéaux doivent être fondés sur une force plus grande qu'eux-mêmes s'ils veulent être en mesure de refaire leur vie. Le message, il faut que ça soit intense et puissant, puis il faut vouloir s'en sortir, il faut vouloir aller selon des principes spirituels. On va à la page 30, dans la page 30, dans le chapitre Romain, 3X. Puis là, le docteur, il dit, bien, s'il y en a pour qui nous donnons l'impression de verser dans le sentimentalisme en qualité de psychiatre à la direction d'un hôpital, nous invitons ces gens à venir sur la ligne de front et de nous assister aux tragédies. Voilà les conjoints de l'espéré, puis les jeunes enfants. Le docteur, je pense que c'est juste sympathique pour ces gars-là, là, c'est pas ça. Venez sur la ligne de front, ils nous disent, venez voir comment est-ce qu'ils sont maltraités, les alcooliques, comment est-ce qu'ils ont de la misère, puis on a une solution pour eux autres, puis on sait que c'est mieux que ce qu'on n'a jamais eu. Fait que c'est pour ça que j'écris mon nom. Le docteur, c'est pour ça que j'écris mon nom dans le gros livre, pour être certain, que de donner une confiance aux gens, de dire oui, il y en a une manière de sortir. Ces gens-là ont trouvé une façon. Ils nous disent que ceux qui ne croient pas à ça, bien, qu'ils viennent consacrer une partie de leurs activités quotidiennes et même de leurs heures de sommeil à résoudre ces problèmes-là que les alcooliques qui ont. Alors, les plus cyniques comprendront pourquoi on a accepté et encouragé ce mouvement-là, parce que le docteur il a trouvé qu'il y avait de quoi de bon que les autres n'avaient jamais trouvé là-dedans. C'est une autre façon de pouvoir se rétablir et rester rétabli. Le docteur nous dit, après de nombreuses années d'expérience, il semble que nous n'ayons rien trouvé qui contribue davantage à la réhabilitation de ces hommes que de l'action désintéressée qui prend de plus en plus d'ampleur dans leur milieu. Il n'y a pas rien qui fait plus, qui marche mieux qu'un alcoolique qui parle d'un autre alcoolique, qui l'amène à lire le gros livre, qui l'amène à faire ses étapes avec, sans rien charger. Le seul intérêt que moi j'ai à soi, je ne charge pas un sou puis je ne veux pas rien avoir. C'est juste que j'espère qu'il y a une personne au moins, puis peut-être plusieurs, qui vont être capables de comprendre quelque chose qu'ils n'ont jamais compris. La lumière va s'allumer, puis ils vont continuer dans le programme de rétablissement. Là, le docteur nous dit, bien, je pense que on va prendre un petit 5 minutes de break. Quelqu'un, il faut qu'il aille à la toilette ou refaire le café. Moi, je vais essayer de retrouver l'image, là, parce que ça me fatigue un peu. Vous êtes encore là, vous autres, là?
Oui, vas-y.
OK. Hommes et femmes boivent essentiellement parce qu'ils aiment l'effet produit par l'alcool. Tout le monde qui boit aime l'effet produit par l'alcool. Nous autres, les alcooliques, ça va plus que ça. Je donne toujours l'exemple. Ma fille la plus vieille, elle aime ça boire du vin en mangeant. Fait que si on va souper quelque part, elle sort d'un verre de vin. Souvent, on a fini le souper, puis il en reste la moitié du verre, puis j'ai dit « Tu le finis pas? » Elle a dit « Non, j'en ai assez. » Dans ma tête, ça ne fait pas de sens. Comment ça en a assez? Ça n'a même pas venu dans la tête. Elle dit qu'elle aime ça, boire du vin en mangeant. Fait qu'elle me donne un verre, puis elle boit des fois. Au cours du temps, elle ne boit pas tout. Mais moi, j'étais comme elle. Moi, j'aime ça, boire du vin en mangeant. Fait moi, quand j'allais dans un restaurant, je commandais une bouteille de vin, puis je la buvais avant de manger. J'en commandais un autre pour manger, parce que j'aime bien ça en mangeant. Puis après, j'avais fini, j'en prenais une autre bouteille avant de m'en aller. Fait que c'est ça, aimer boire du vin en mangeant, pour un alcoolique. Pour une personne normale, comme la plus vieille de mes filles, bien, elle prend un verre, puis elle ne finit pas, puis elle dit « j'en ai assez ». C'est un alcoolique, ça ne marche pas de même. Mais elle aime l'effet que ça produit. Elle prend 2-3 gorgées, puis ça fait un petit effet. Je ne sais pas c'est quoi cet effet-là, mais ça fait effet. Mais nous autres, pas de même, ça marche, ils vont nous le décrire. L'impression d'évasion qu'elle procure est telle que même si des buveurs admettent son effet nuisible sur la santé, ils ne peuvent plus, après un certain temps, différencier ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Tu sais, moi, je me tenais dans un bar, là, puis je me saoulais tous les soirs, puis je me demandais comment ça que pas tout le monde était là. Il me semble que c'était la seule affaire à faire d'être dans un bar. Ça fait 30 ans que je ne vais plus dans un bar, puis je comprends qu'est-ce que je ne comprenais pas dans ce temps-là. Mais c'est pour ça, parce que je ne comprenais pas l'effet négatif, l'effet nuisant qu'il y avait sur ma santé, puis c'est tout mon comportement. L'effet nuisible, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus après un certain temps. Ils ne peuvent pas différencier. Pour moi, la vie qu'ils mènent, comme ils nous disent, pour les alcooliques, la vie qu'ils mènent, c'est la seule qui soit normale. Moi, je ne trouvais pas ça normal que le monde ne vient pas au bar tous les soirs. L'alcoolique, c'est le même qui pense. On est impatient, irritable et mécontent aussi longtemps qu'on ne ressent pas de nouveau cette sensation d'aise et de confort que procure quelques verres. C'est certain, quand on est un alcoolique, ça va mal, tout va mal. On va prendre un verre, puis qu'est-ce que ça fait? Ça fait... C'est sûr que ça fait ça. Ça fait ça pour le non-alcoolique aussi. Mais nous autres, ça fait... Amène-en deux autres. Si un va bien, amène-moi-en deux autres. Un alcoolique, c'est ça que ça fait. Puis t'en vas deux autres, t'en vas encore deux autres, ça finit jamais. Une personne normale va prendre un demi-verre ou un verre, puis elle fait l'effet qu'elle a besoin, puis c'est fini là. Mais pour nous autres, ça ne marche pas de même. Puis on y dit ça... D'aise que procure quelques verres. C'est vrai que d'autres prennent impunément sur leurs yeux. Comme ma fille, elle va prendre la moitié de son verre, puis elle finit ça là. C'est impunément. Okay? Après qu'ils ont une fois de plus succombé au désir de boire, et qu'il, comme il arrive à un grand nombre, et que le phénomène de l'allergie s'accentue, c'est marqué l'obsession, mais c'est l'allergie qui s'accentue. Aussitôt que tu as commencé à boire, c'est l'allergie qui fait effet. L'obsession, c'est avant que tu commences à boire. Les alcooliques traversent des étapes bien connues de la cuite, dont ils émergent bourrés de remords et fermement résolus à ne plus jamais boire. Je ne sais pas si ça vous rappelle des souvenirs, mais moi, ça me rappelle des souvenirs. Hein, j'en prendrai plus, puis le même soir, elle sera au bord encore. Ce scénario se répète encore et encore, et à moins que cette personne peut vivre l'expérience d'un changement psychique total, il y a peu d'espoir qu'elle se rétablisse. Dans mon cas, moi, il n'y avait pas d'espoir. Puis tant que je n'ai pas eu ce changement psychique total-là, j'étais en danger de retourner boire. Si aujourd'hui, je ne fais pas ce que je fais là, je ne continue pas à le faire, mais Je t'arrisque aussitôt que j'arrête de faire ce que je suis supposé de faire. Par ailleurs, ici étrange que ça puisse paraître à ceux qui ne comprennent pas, une fois qu'un changement psychique s'est produit, cette même personne qui semblait condamnée, dont tous les problèmes étaient, et dont les problèmes étaient tellement nombreux qu'elle désespérait de les résoudre, réussit soudainement, sans difficulté, à surmonter son besoin d'alcool simplement en s'efforçant d'absorber quelques règles simples. C'est quoi ces quelques règles simples-là? C'est les 12 étapes. Le jour que je peux mettre ces étapes-là dans ma vie, les désirs de boire vont disparaître, puis je vais commencer à avoir une vie joyeuse, heureuse et libre, sans consommer. C'est ça qu'ils nous disent. On désespérait de les résoudre, puis soudainement, sans difficulté, on réussit à surmonter notre besoin d'alcool. Il y a des efforts à faire, c'est sûr, on va en parler plus tard, les efforts qu'il faut faire pour ça. Mais premièrement, il faut le vouloir. Il faut vouloir arrêter de boire, puis avoir quelqu'un qui l'a déjà fait à nous autres, être trouvé un parrain, une marraine, un guide spirituel, qui a déjà fait ses étapes d'après le gros livre. Le docteur nous dit, des hommes m'ont lancé cet appel sincère et désespéré. Docteur, je ne veux plus continuer ainsi. J'ai toutes les raisons de tenir à la vie. Il faut que je cesse de boire. J'en suis incapable. Il faut que vous m'aidiez. Demandez au docteur et on va voir ce que le docteur répond. Le docteur dit, face à ce problème, il doit arriver parfois qu'un médecin, s'il est honnête avec lui-même, reconnaisse sa propre impuissance. L'humilité de ce docteur-là, moi, j'en viens pas. Tu sais, de reconnaître sa propre impuissance. Qui gongasse sa vie avec ça, puis il dit, bien, suivez les alcooliques, c'est eux autres qui ont la solution, c'est pas moi. Même s'il donne tout ce qu'il peut, souvent, c'est pas assez. On a le sentiment que quelque chose au-delà de la force humaine est nécessaire pour produire le changement psychique essentiel. Le docteur le savait que ça prenait quelque chose, un changement psychique essentiel, mais il savait pas comment le donner, il était pas capable de le donner. C'est ça qui va dans son humilité, qui avoue ça. Bien que le nombre de personnes rétablies grâce à l'intervention d'un psychiatre soit considérable, nous médecins sommes forcés d'admettre que nous avons marqué très peu de points dans la solution du problème pris dans son ensemble. Nombreux sont les alcooliques qui ne peuvent pas répondre à l'approche psychologique traditionnelle. Le docteur, il nous a dit, j'ai lu dans ses faits à lui, là, son taux de rétablissement des alcooliques était moins de 2 %. Fait que quand Bill est arrivé avec des résultats de 75-80 % d'amélioration, bien, il ne peut pas faire autrement que vouloir participer à ce livre-là. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui voient l'alcoolisme uniquement un problème de maîtrise mentale. Fait que c'est pas parce qu'on manque de volonté, c'est ça que le docteur nous dit. Je ne vois pas une chose de maîtrise mentale, c'est pas parce que je vais convaincre que c'est correct, ça va être correct, ça n'a pas de rapport avec la volonté. J'ai connu plusieurs hommes qui, par exemple, avaient travaillé pendant des mois sur une question ou une affaire dont le dénouement prévu pour un jour précis devait être en leur faveur. Le docteur, il traitait des alcooliques régulièrement, il travaillait avec eux autres. Le docteur, il nous raconte des faits qu'il a vécu, qu'il a vu. Ces hommes-là ont pris un verre environ un jour de la date fixe et dès lors, le besoin irrésistible de boire a pris le dessus sur toute autre chose. C'est quoi ce besoin? C'est une obsession. L'obsession est devenue assez forte. Sa tête, elle a convaincu que sa fois 7, ça ne fera pas ce que ça a fait les heures fois. Ça fait 100 fois, je vais me saouler, m'asseoir, ça ne fera pas ça. C'est ça que la tête a pris le dessus. De sorte que la rencontre importante n'a jamais eu lieu. Moi, quand j'étais allé finir mes études à Montréal, la dernière année de mes études, j'avais un concours de fin d'année qui était très important d'arithmétique. J'étais allé me saouler le soir, puis je ne m'ai pas levé le lendemain matin pour aller faire ce concours-là, mais je n'ai pas gradué cette année-là. Je voulais prendre des cours de rattrapage. J'avais 17 ou 18 ans dans ce temps-là. T'sais, déjà, j'étais longtemps, j'étais prêt pour vous autres. C'est pas là que c'est arrivé. Mais juste pour dire, quand Bill nous rencontre, le docteur nous rencontre affairement qui sait ce qui s'est passé avec ces gars-là, bien, moi, je fais partie de ça. Alors, de 17, 18 ans, déjà, j'étais là. Là, Bill, il dit, ces hommes ne buvaient pas pour fuir la réalité. Ils buvaient pour satisfaire un besoin de boire au-delà de tout entendement. Une obsession qui est assez forte que tu dis, un examen bien important demain matin, mais c'est pas si important que ça. Tu sais, ça va être correct. Peut-être que je n'irai pas faire l'examen. C'est le grand Hubal là, qui parle. Puis ils vont le reconnaître. Puis ils vont me donner le diplôme, même si je ne suis pas là. Là. Tu sais, ma tête, c'est là qu'elle m'emmène. Satisfaire un besoin au-delà de tout entendement. Ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. J'ai 17 ans, 18 ans, j'étais à l'école. Je vais graduer. Puis je manque cet examen-là que j'aurais réussi haut la main. Puis là, il nous parle qu'est-ce qui arrive à ceux qui ne comprennent pas. Il arrive souvent que des situations résultant du besoin impérieux, le besoin impérieux, c'est un désir de boire qui est plus fort que toi, amène certaines Il marque homme, homme ou femme, certaines personnes à faire le sacrifice suprême plutôt que de continuer à lutter. C'est quoi le sacrifice suprême? Mais on va aller s'enlever la vie, les suicides. Les gens, on en connaît tous, en tout cas, moi j'en connais, puis certains, plusieurs, vous en connaissez, des gens qui se sont suicidés au lieu de se rétablir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été capables de comprendre ça. Ils ont compris la première partie de la première étape, qu'ils ne pouvaient pas boire. Ils ne pouvaient pas boire parce qu'ils se saoulaient. Ils ont compris cette partie-là, mais ils n'ont pas compris la deuxième partie, c'est qu'on a une solution. Ils n'ont pas compris la solution, ils sont allés s'enlever la vie parce qu'ils savent qu'il n'y a plus une vie pour eux autres. Ils ne peuvent pas arrêter de boire, puis ils ne peuvent pas boire. Fait qu'il n'y a pas de solution, puis qu'ils s'enlèvent la vie. La classification des alcooliques semble une tâche des plus difficiles et l'affaire avec force détail dépasse l'objet de ce livre. C'est certain, ils vont donner quelques descriptions d'alcoolique, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est plus important, ça va être le paragraphe suivant, mais on va passer à travers ce paragraphe-là. Ils nous disent, il y a bien sûr des psychopathes qui sont émotionnellement instables. Nous connaissons bien cette catégorie de patients. Ceux-ci se mettent toujours au sec pour de bon. Ils sont rongés par les remords et prennent plusieurs solutions, mais jamais de décision. Je faisais partie de ceux-là. Moi, je faisais partie de toute la gang. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas tellement important. Il y a aussi le genre d'homme qui refuse d'admettre son incapacité à prendre de l'alcool. Le grand Hubal, tu vois, s'asseoir, ça va marcher. Il pense à diverses façons de boire. Il varie ses consommations ou change d'environnement. Moi, je me suis mis à boire du scotch parce que c'était tellement méchant. J'ai dit, je ne boirai pas gros, moi, prendre du scotch, c'est pas buvable. Mais en dernier, je cherchais ça à la caisse, le scotch. Changer d'environnement. Il y a le type d'alcoolique qui demeure convaincu qu'après une longue période d'abstinence, il sera capable de prendre un verre sans risque. Sur une gageure, quand j'étais dans 20 ans, j'ai gagé 100$ que je suis un an sans boire. Je l'ai fait l'année, mais je me suis saoulé ce soir-là. Fait, j'ai-tu prouvé quelque chose? J'ai juste prouvé que j'étais un alcoolique. Type d'alcoolique qui demeure convaincu qu'après une longue période, il sera capable de prendre un verre sans risque. On rencontre également le style maniaco-dépressif qui peut être le moins compris par ses amis et qu'on pourrait écrire tout un chapitre. Dépressif, c'est certain. C'est un dépressif, l'alcool. Fait que plus qu'on en prend, plus qu'on va devenir dépressif. Là, c'est l'apitoiement. Pauvre petit Hubert, regarde tout ce qui m'arrive. Avec tout ce que je fais de bon, regarde tout ce qui arrive. Pauvre petit Hubert, là, c'est de valeur. Okay? Puis, il existe des personnes qui se comportent normalement sur tous les points, sauf en ce qui concerne l'alcool. Ils sont souvent talentueux, intelligents ou aimables. Tout le monde peut faire partie de cette catégorie-là. Hein. Bon, moi, je fais partie de toutes les catégories, puis la façon que le docteur va décrire le prochain paragraphe, on va voir ce qu'il dit. Toutes ces personnes, ainsi que beaucoup d'autres, ça n'a pas d'importance quelle sorte d'alcoolique que je suis, on a tout un symptôme en commun. On est incapable de boire sans contracter un goût immodéré pour l'alcool. C'est ça que, aussitôt que je bois, l'allergie kick-in, puis je ne peux plus arrêter. Je ne peux pas arrêter, je ne peux pas enlever ce goût immodéré-là. Puis ce phénomène, comme on l'a suggéré, c'est un phénomène, c'est pas comprenable. Le gars, il s'est saoulé hier, puis à soir, il va retourner là, il a défait son char, il perd du sablon, il retourne encore. C'est un phénomène. Phénomène qu'on a suggéré. Pour être la manifestation d'une allergie qui différencie ces gens et les prennent d'un groupe à part. C'est pour ça que je dis, moi, le gros livre, ça devrait être lu par tout le monde. On est des alcooliques, on a des amis alcooliques, on a nos parents, on a nos enfants. Tout le monde devra comprendre notre maladie pour qu'on puisse aider de plus en plus de monde à comprendre puis à arrêter de boire puis savoir qu'il y a une façon d'arrêter de boire. On peut être joyeux, heureux et libre sans consommer, quelle que soit notre obsession. Cette réaction face à l'alcool n'a jamais été enrayée de façon permanente par aucun traitement connu, quel qu'il soit. N'importe quelle obsession, il n'y a pas de traitement pour nous enlever ça. La seule manière que moi je connais en tout cas, c'est les alcooliques anonymes avec nos 12 étapes. Le seul remède qu'on peut conseiller, c'est l'abstinence totale. Si je suis un addict, de quelque sorte que ce soit, je peux pas en faire rien qu'un peu. Je peux pas dégager 5$, je peux pas laisser dans un casino, je peux pas faire une ligne de coke, je peux pas aller dans un bordel, je peux pas rien faire de ça. Un, c'est trop. Je peux pas, faut pas que je goûte à ça. N'importe quelle obsession que c'est toujours la même. Ça nous précipite au milieu d'un chaud débat. De nombreuses opinions ont été émises, les unes en faveur de l'abstinence, les autres contre. Mais dans le milieu médical, l'opinion générale est que la plupart des alcooliques chroniques sont condamnés. C'est quoi un alcoolique chronique? Chronique, ça veut dire que la science n'a pas trouvé de solution à notre problème. Si vous êtes une maladie chronique, ça ne se guérit pas par la science. C'est ça que ça veut dire. C'est ça qu'on est condamné. Quelle est la solution? Je serais sans doute mieux répondre qu'en décrivant l'une de mes expériences. Le docteur va nous décrire qu'est-ce qui s'est passé avec les gens qui ont suivi ce programme-là. Environ un an auparavant, un homme a été admis à l'hôpital pour alcoolisme chronique. C'était partiellement rétabli d'une hémorragie gastrique et semblait présenter des symptômes de détérioration mentale pathologique. Il avait perdu tout ce qui compte dans la vie. Seul le goût de l'alcool semblait le maintenir en vie. Il admettait ouvertement qu'il n'y avait plus d'espoir pour lui. Après une période de désintoxication, on n'a pas trouvé de dommages permanents causés à son cerveau. Il a accepté de suivre le programme exposé dans ce livre. C'est quoi le programme qui est exposé dans ce livre? C'est les 12 étapes. Il a accepté ça. Ce gars-là, il s'appelait Hank Parkhurst. C'était le deuxième alcoolique de New York. Il y en avait déjà d'autres à Akron, mais c'était le premier que Bill a réussi à rendre sobre à New York. Il a accepté de suivre le programme exposé dans ce livre. Un an plus tard, il a demandé à me voir. J'ai alors ressenti une sensation très étrange. Je connaissais son nom. Cet homme de nom, il connaissait quelque peu ses traits, mais là, ça arrêtait toute ressemblance. L'individu tremblant, désespéré et à bout de nerfs avait fait place à un homme débordant d'aise et d'assurance. Je me suis entendu avec lui pendant un moment, mais je ne pouvais toujours pas me convaincre que j'avais déjà connu cet homme. Lorsqu'il m'a quitté, je ne l'avais toujours pas reconnu. Beaucoup de temps, c'est reconnu sans qu'il touche à la croix. Le gars, Hank Parkhurst, avait fait ses étapes. Il a tellement changé. Il est allé voir le docteur un an plus tard. Et le docteur, il avait sevré. Il voit le docteur pour avoir une chat, parler avec le docteur. Puis le docteur, il dit, Chris, je ne peux pas reconnaître ce gars-là. Oui. Il me semble qu'il y a des traits un peu que je vois, mais je ne peux pas me rappeler de l'avoir soigné. Pourquoi? Parce qu'il a fait ses étapes, le changement spirituel est arrivé, que sa façon de penser a changé assez drastiquement que sa façon d'agir et réagir, le docteur ne pouvait pas le reconnaître. Il était un an sans le voir, puis le gars était tout à fait différent. Il ne parlait plus pareil, il agissait plus pareil, il réagissait plus pareil. Le docteur, il dit, ça me dit quelque chose, mais je ne peux pas jurer que c'est ce gars-là. En page 34, après toujours en chiffre romain, lorsque j'ai besoin de me remonter le moral, je me rappelle le cas d'un autre homme qu'un éminent médecin de New York m'avait adressé. Il racontait quand ça va pas bien, j'ai de la misère avec des gars, mais là, je vais me rappeler l'histoire de quelqu'un qui ça avait marché. Le patient avait établi lui-même son diagnostic, puis ayant conclu que sa condition était sans espoir, s'est caché dans une grange abandonnée, déterminé à mourir. Il a été trouvé par une équipe de recherche et conduit chez moi dans une condition désespérée. À la suite de sa réhabilitation physique, il m'a dit franchement qu'il considère son traitement comme peine perdue, à moins qu'on puisse lui assurer, ce que jamais personne n'avait fait, que dans l'avenir, il démontrait assez de volonté pour résister à l'envie de boire. Il s'appelait Fitzmayo, c'était le troisième membre de New York. Lui, il s'est ramassé dans une grange avec de la boisson pour se saouler, pour en mourir. Puis il y a du monde qui le connaissait, qui l'aimait, qui l'ont cherché, puis ils l'ont trouvé, puis ils l'ont emmené au docteur Silkworth. On va voir ce que le docteur Silkworth dit. Sa condition d'alcoolique était tellement compliquée et son état dépressif tellement avancé que nous avons cru que son seul espoir résidait dans ce que nous appelons alors la psychologie morale. Mais même ça, croyons-nous, on n'a peut-être aucun effet. Même le docteur, tout ce qu'il savait, puis il dit, même Bill, pour moi, il n'en viendrait pas au bout de celui-là. Cependant, il en est venu effectivement adopter les idées contenues dans ce livre. Il n'a pas pris un verre depuis très longtemps. Je le vois de temps à autre et son comportement est comparable à celui que l'on souhaite trouver chez tout homme normal. Le docteur, il a suivi, lui, il le voyait à temps en temps, il venait le voir, puis il a dit, tabarouette, c'est pas croyable, ce gars-là, je pensais que même le réveil spirituel sera passé pour un gars avancé comme ça, puis ça a marché. Fait que le docteur, il nous fait une petite recommandation, là. Il nous dit, je recommande vivement à tous les alcooliques de lire ce livre, puis moi, je recommande à nos amis des alcooliques aussi de lire ce livre, parce que ça va faire un grand bien pour tout le monde, parce qu'il y a un paquet de monde, ils nous voient se rétablir, puis ils ne savent pas où on vient ou ce qu'on va, puis ils ne sont pas sûrs de ce qui va nous arriver. Puis avec en lisant ce livre-là, puis s'il faut, ce que je conseille encore mieux, c'est de le lire avec eux autres, puis leur expliquer un peu comment on fait à soi, expliquer à les non-alcooliques, les gens de notre famille, c'est quoi notre maladie, ce que c'est, ça devient ça, ce qu'on fait avec ça. Tout de lire ce livre jusqu'à la dernière page. Puis sans trop, par mieux qu'ils font avec l'intention de se moquer, il pourrait arriver que ceux-là même restent pour prier. Fait qu'il y a du monde qui vient des études de Grolier pour rire de moi ou de rire de nous autres. Bien, il y a des grosses chances qu'il y en a qui vont rester. Puis j'ai vécu cette expérience-là parce que j'ai commencé à faire des études de Grolier en 2005 avec Joanne, ma conjointe du temps. Et puis, il y a le monde derrière nous autres. Le monde dans les meetings pour rire de nous autres. On n'a pas lâché, on a continué, puis tranquillement, on a eu des gens qui nous ont joints. Aujourd'hui, mais l'étude de Gros Livre, c'est connu pas mal à travers du Québec, à travers du monde qui l'ont suivi, puis ils font suivre à d'autres. Fait que c'est le plus gros conseil qu'on peut donner, c'est de lire ce livre-là, de faire comprendre aux autres, faire comprendre à nos amis proches et à tous les gens qui nous entourent. Fait que ça va conclure le programme pour asseoir. On va finir, fermer le meeting avec la prière de la sérénité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Encore une fois, merci à tout le monde d'être là. Moi, j'ai besoin de vous autres. Lâchez-moi pas. J'ai besoin de vous autres. Sans vous autres, moi, j'étais 30 ans à boire, puis ça ne marchait pas. Puis depuis le dernier 30 ans, j'étais avec vous autres, puis ça marche. Mais j'ai besoin de vous autres. Lâchez-moi pas.